Donc nous allons continuer sur le même thème et nous allons regarder dans nos Bibles Luc chapitre 2. On va lire à partir du verset 21. Donc ce passage, c'est donc un passage de la Nativité et nous nous trouvons quelques jours après la naissance de Jésus. Le précédent événement qui était rapporté dans cet évangile de Luc, c'est l'adoration de Jésus par les bergers, suivant l'instruction qui leur avait été donnée par les anges. Donc on va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 2, verset 21. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Donc là, on va se consacrer aujourd'hui à étudier le texte des versets 25 à 35. Donc des versets 25 à 35. Il n'y avait pas grand monde pour accueillir Jésus à sa naissance. On voit dans les évangiles qu'il y avait une grande attente pour le Messie du temps de Jésus pendant son ministère terrestre. Tant et si bien que certains voulaient, beaucoup même voulaient le faire roi. Mais on sait en fait qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils voulaient un chef militaire pour les libérer des Romains, mais ils ne croyaient pas en l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lors de la naissance de Jésus, on peut se demander où sont les chefs religieux de ce qu'on pourrait appeler l'Église de l'époque. Où étaient donc les sacrificateurs et les scribes? Eh bien, ils étaient avec Hérode pour le conseiller sur le lieu de la naissance du Messie. Mais pas pour aller adorer le Messie. Au contraire, même, ils étaient passivement complices du massacre qu'on a appelé le massacre des saints innocents qu'Hérode commis à l'encontre de tous les enfants de Bethléem. Et où étaient les pharisiens lors de la naissance de Jésus? On n'en voit aucun. Non, il n'y a qu'un petit reste, quelques hommes et quelques femmes, que le Seigneur, par son esprit ou par ses anges, a attirés irrésistiblement vers Jésus et vers sa naissance. Évidemment, il y a Marie et Joseph qui sont les parents qui ont la mission d'être les parents terrestres de Jésus. Il y a Zacharie et Élisabeth, qui sont les parents de Jean-Baptiste, qui était donc le prophète, qui devint prophète et qui fut l'annonciateur de Jésus. Il y a les bergers de Bethléem, qui sont des gens pauvres et sans importance. Comme Marie, Joseph et Zacharie, ils ont été avertis par l'ange, qui les a envoyés adorer le Fils de Dieu. Il y a ces mages d'Orient, qui sont mystérieusement attirés par cette étoile, et qui sont venus adorer celui qu'ils appellent le roi des Juifs, causant ainsi beaucoup de trouble à Hérode. Et puis il y a Siméon, que nous venons de voir dans notre texte, et un tout petit peu plus loin, il y a Anne, et c'est tout. Personne d'autre n'est venu recevoir la première venue de Jésus-Christ. Et cela devrait nous faire réfléchir dans l'Église d'aujourd'hui, parce que on parle beaucoup de la deuxième venue de Christ, mais est-ce que nous l'attendons vraiment? Jésus n'a-t-il pas dit, en Luc 18, verset 8, il a dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre » Est-ce que nous sommes prêts pour la venue de Christ. La première venue de Christ doit nous faire penser à sa deuxième venue. Sa deuxième venue à la fin des temps, où il viendra comme un voleur, dit-il, ou même notre propre mort. Quelque part, notre propre mort, c'est un instant qui va nous figer pour la deuxième venue. Nous pouvons à tout instant être précipités dans l'éternité et nous trouver face à notre propre juge. Alors sommes-nous comme les cinq vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe, ou sommes-nous comme les cinq vierges folles qui n'étaient pas préparées? Sommes-nous comme le peuple d'Israël de l'Exode, les reins sains, souliers aux pieds, bâtons à la main, prêts à partir? Ou bien sommes-nous comme le méchant serviteur qui se dit en lui-même que son maître tarde à venir? Et en un mot, est-ce que nous sommes comme Siméon, comme cet homme qui attendait ardemment la venue du Messie? Posons-nous cette question dans nos cœurs. Sommes-nous prêts? Il a dit qu'il viendra. Il est venu une première fois, il a dit qu'il viendra une deuxième fois. Sommes-nous réellement prêts pour la deuxième venue de Christ? Sommes-nous prêts même pour notre mort? Regardons donc un petit peu de plus près ce personnage, cet homme Siméon. Verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. On ne connaît rien de cet homme Siméon en dehors de ce passage, mais nous avons ici trois informations qui nous sont données le concernant. Il attendait, premièrement, il attendait la consolation d'Israël. Deuxièmement, il était juste et pieux. Et troisièmement, l'Esprit Saint était sur lui. Regardons donc chacun de ces aspects. La consolation d'Israël. Nous avons vu donc que Siméon faisait partie de ce petit groupe de fidèles qui attendaient la venue du Messie, par lesquels il y avait en particulier Marie, Zacharie et les bergers. Et en passant, il est intéressant de noter que les textes de l'évangile de Luc à propos de chacune de ces personnes, donc Marie, Zacharie, les bergers et Siméon, ont fait l'objet depuis les temps anciens de l'église de Cantique, et qui à l'époque était en latin. Donc il y a le Magnificat de Marie, donc qui est basé sur Luc 1, 46 et les versets suivants, le Bénédictus, donc qui est le cantique de Zacharie, c'est 1, 68 et versets suivants. Il y a le Gloria des anges, donc c'est l'annonce en fait des anges aux bergers, Luc 2, 14. Et puis concernant donc Siméon, il y a un cantique qui s'appelle le Nunc Dimittis, donc en latin, qui veut dire « Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller ». Donc c'est le verset 29 de notre texte. Intéressant donc de voir que depuis toujours, l'Église a été marquée par ces messages. Donc intéressons-nous un peu à cette consolation d'Israël. En fait, Marie et Zacharie parlent tous deux, d'une certaine façon, de cette consolation d'Israël également, dans chacun de leurs cantiques. Et je vais lire pour vous donc un extrait du cantique de Marie, donc qui est Luc 1, 54 et 55. Et elle dit donc, le Tout-Puissant, elle parle du Tout-Puissant, le Tout-Puissant a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Donc ça, ce sont un extrait donc du cantique de Marie, de Magnificat. Et ensuite, on va lire un passage un tout petit peu plus long dans le cantique de Zacharie, donc Luc 1, versets 72 à 75. Donc là, c'est Zacharie qui parle et qui dit ceci. Béni, donc pardon, à partir de verset 68, et non pas 72. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Marie et Zacharie parlent tous les deux donc de la miséricorde de Dieu, qui est un terme proche du terme consolation. Selon Marie, cette miséricorde, elle est envers Abraham et sa postérité pour toujours. Et selon Zacharie, Elle est envers nos pères, dit-il, verset 72, et elle fait l'objet d'un serment juré à Abraham. Marie dit également que le Tout-Puissant a secouru Israël. Et Zacharie précise que ce secours vient d'un puissant sauveur. On voit donc que les trois, Marie, Zacharie et Siméon, ils ont cette même attente, la consolation d'Israël, mais qui est exprimée de diverses manières, comme étant le secours d'Israël, ou la miséricorde envers Abraham et sa postérité, ou encore un puissant sauveur. Et donc penchons-nous un peu sur ce serment juré à Abraham dont parle Zacharie. Abraham a été le bénéficiaire de promesses, de nombreuses promesses répétées de la part de Dieu. On les trouve notamment dans le livre de la Genèse, et notamment dans les chapitres 12, 15, 17 et 22. Et je lis pour vous Genèse 22, versets 17 et 18. Genèse 22, versets 17 et 18. Je te bénirai. Donc c'est Dieu qui parle à Abraham. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et Paul, l'apôtre Paul, en fait, il a interprété cette prophétie pour nous, en particulier ce terme de postérité dont parle Marie et dont parle le texte de la Genèse. Et en Galates 3,16, il dit ceci: « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc cette postérité dont parle le texte de la Genèse 22-18, elle possédera la porte de ses ennemis, et selon Zacharie, en 1,71, c'est un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Donc si on résume tout cela, on voit que la consolation d'Israël, le secours d'Israël n'est autre que Jésus-Christ, qui est la postérité d'Abraham, identifié comme étant Christ par l'apôtre Paul, le puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis, dont parle Zacharie. Et l'ennemi ultime dont nous sommes délivrés par Christ, c'est Satan, et nous a délivrés de lui en triomphant à la croix. Et revenons maintenant donc à Siméon. Siméon attendait la consolation d'Israël, nous dit le texte. En fait, Siméon avait, pour reprendre une expression de Galates, de Paul en Galates, il avait la foi dans la promesse. Siméon avait la foi en Jésus-Christ, de la même façon que Marie et que Zacharie. Et nous allons voir ensuite comment cette foi se manifeste. Le deuxième point concernant Siméon, c'est qu'on nous dit qu'il était juste et pieux. Il était juste et pieux. D'autres traductions disent qu'il était juste et craignant Dieu. D'une part, il était craignant Dieu, et d'autre part, il était juste. Et on peut voir en fait dans ces deux mots les deux tables de la loi. La première table de la loi, elle contient les quatre premiers commandements qui concernent la crainte de Dieu. Donc les quatre premiers commandements des tables de la loi, c'est la crainte de Dieu. Et les six derniers commandements, c'est notre comportement par rapport à nos semblables. Et donc, ces six derniers commandements parlent de la justice au sens de notre attitude dans la vie par rapport à nos semblables. Et donc, cette foi de Siméon, cet homme qui avait foi dans la promesse, qui attendait la consolation d'Israël, eh bien, elle se traduit dans sa vie par le respect des commandements de Dieu. Et les choses vont toujours dans cet ordre. Une foi authentique se traduit par la sainteté du comportement. Une foi authentique se traduit toujours par la sainteté du comportement. C'est ce que Paul appelle la foi qui est agissante par l'amour. Toujours Galates, chapitre 5, verset 6. Alors notre foi se traduit-elle par la sainteté de notre comportement? Est-ce que notre foi est agissante par l'amour? Et est-ce qu'on peut dire, si nous avons la foi, que nous sommes justes et pieux, justes et craignant Dieu, comme Siméon. Ce sont des questions que nous voulons nous poser dans notre cœur et qui sont mises devant nous par le Seigneur. Troisième aspect concernant Siméon, l'Esprit Saint était sur lui. Alors il semble que l'expression ici concerne donc non pas simplement l'Esprit Saint tel que le reçoivent tous les chrétiens, mais une œuvre particulière de l'Esprit en vue de la prophétie que Siméon va faire dans les versets suivants. Et c'est l'occasion de nous rappeler de l'œuvre de l'Esprit Saint tout au long du récit de la Nativité, tout au long des événements de la Nativité du Seigneur. Tout d'abord, c'est lui, c'est l'Esprit Saint qui conçoit Jésus en Marie. Il est dit, Luc 1:35, « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Ensuite, nous voyons Élisabeth, Marie rend visite à Élisabeth, et il est dit qu'Élisabeth est remplie de l'Esprit, et que son enfant tressaille dans son sein, lorsqu'elle voit Marie enceinte de Jésus. Luc 1:41. Ensuite, juste après, Marie dit son Magnificat. Il n'est pas dit expressément qu'elle est remplie de l'Esprit, mais on a envie d'imaginer que c'est le cas, en particulier en raison de cette présence de l'Esprit au même moment en Élisabeth. Et il est dit que Zacharie également, donc à la fin du chapitre 1, est rempli du Saint-Esprit. Et il prophétise lorsqu'il proclame son cantique. Et enfin, comme nous venons de le voir, mais Siméon est poussé par l'Esprit à prophétiser sur Christ. Donc on voit ici l'œuvre du Saint-Esprit. Deux remarques à cet égard. Nous avons d'abord une des nombreuses preuves de son œuvre dans l'inspiration de l'Écriture, parce que toutes ces personnes qui ont prophétisé, eh bien leurs paroles, elles ont été rapportées dans l'Écriture. Et donc elles sont inspirées par l'Esprit. Mais également, on voit quelque chose de très important sur l'Esprit Saint. C'est que il a toujours pour but de pointer à Christ. Jamais l'Esprit Saint ne pointe à lui-même. Il a toujours pour but de pointer à Christ. On voit notamment que d'abord il conçoit Christ, enfin il conçoit Jésus, l'homme, le Dieu-homme, dans le ventre de Marie. Il le proclame au travers des prophéties prononcées par ces trois protagonistes de la nativité, Élisabeth, Zacharie, Siméon. L'Esprit n'agit jamais pour se mettre en avant séparément de Christ. En fait, il apparaît clairement dans la parole que sa mission, la mission du Saint-Esprit, c'est de glorifier Christ. Par exemple, en Jean 16:14, Jésus dit ceci, « C'est lui, donc l'Esprit, qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Donc regardons la suite du texte, les versets 26 à 30. Et je relis pour vous. Donc Siméon, donc, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Tout d'abord, nous voyons donc une parfaite confirmation de ce que nous venons de voir sur le rôle de l'Esprit en relation avec Christ. Siméon a été poussé par l'Esprit au temple. Pour quelle raison? Pour voir Christ. Et nous voyons par ailleurs que l'avertissement du Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, eh bien, porte également sur Christ. Nous voulons maintenant donc regarder cette attitude de Siméon par rapport à sa propre mort. Donc vous voyez que le texte nous dit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, et ensuite il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Donc, maintenant qu'il a vu Jésus, Siméon est prêt à mourir. On voit qu'il est prêt à mourir. Alors, il y a dans la langue française cette expression « voir Venise » et mourir, ou d'autres langues d'ailleurs. Et l'idée, donc, c'est que Venise serait une ville tellement belle qu'une fois qu'on l'a vue, on a rien de mieux à espérer dans la vie, on peut mourir. Alors, est-ce que vous pensez que on peut appliquer ce concept à Siméon? Il a vu Christ. Maintenant qu'il a vu Christ, il a le rien de la vie, il peut mourir. Alors à première vue, on pourrait le croire. Mais en fait, ce serait un peu comme si Siméon en fait assouvissait une curiosité. Donc c'est le fan de Jésus, et il a vu sa star, il a vu Jésus. Alors maintenant, il peut mourir. Mais en fait, c'est pas du tout ce que nous dit le texte. La clé ici du fait que Siméon est prêt à mourir, c'est qu'il est prêt à s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. En d'autres termes, maintenant, je peux pas simplement mourir, mais je peux mourir en paix. Alors, comment chacun d'entre nous, quand il affrontera la mort, peut-il s'en aller en paix, comme Siméon ? Et de quelle paix s'agit-il ? En fait, par nature, sur le sujet de la mort, les hommes ne sont pas du tout en paix. Ils sont en permanence dans l'anxiété, dans la peur de la mort. Nous le savons très bien. L'acteur et humoriste américain Woody Allen, qui est un incroyant, il est célèbre. Je ne sais pas si vous connaissez Woody Allen, mais il est célèbre pour sa peur de la mort. C'est un thème qui le hante. Et il a eu des propos comiques, mais plein de vérité sur la question. J'en cite un, par exemple, où il dit « La vie est pleine de misère, de solitude et de souffrance. Mais elle s'arrête beaucoup trop tôt. » Vous voyez l'idée ? Il a bien compris que même si la vie est difficile, ce qui nous attend au-delà est bien pire. Bien pire parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et après vient le jugement. Hébreux 9, 27. Et au fond de même, de façon presque inconsciente, tous les hommes savent qu'au-delà de la mort vient le jugement. Et ils sont terrifiés. Et c'est pour ça que Woody Allen est terrifié. Et il a raison, parce qu'il faudra qu'il rende des comptes. Mais Siméon, lui, n'est pas terrifié. Il part en paix. Et pourquoi ? Parce que ses yeux ont vu le salut de Dieu. L'Esprit Saint lui en avait parlé, et maintenant il l'a vu. Un peu comme Job qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La promesse du Saint-Esprit s'est réalisée pour de vrai. Il part en paix parce que Jésus, Christ, apporte la paix. Et quelle paix apporte-t-il ? Il apporte la paix avec Dieu. Tous les hommes sont en guerre avec Dieu. C'est pourquoi ils ont peur de la mort. Mais Jésus apporte la paix. Il apporte la réconciliation avec Dieu pour ceux qui ont la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Siméon prend ce petit bébé dans les bras, il ne voit pas juste un petit bébé. Il tient dans les bras, il touche avec ses mains l'homme qui dans 33 ans va mourir sur la croix pour lui et pour nous. Il tient dans les bras l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour que nous ayons la vie éternelle, il faut que Christ meure sur la croix. Maintenant qu'il le tient dans les bras, Siméon sait que la promesse va être réalisée. Le substitut est né, celui qui nous apporte la paix avec Dieu. Et bien là, Siméon peut mourir en paix avec Dieu. Alors comment voyons-nous notre propre mort, frères et sœurs ? Avez-vous peur de la mort ? Et Siméon n'a plus peur de la mort maintenant qu'il sait que son Sauveur est venu. Et Paul n'avait pas peur de la mort non plus. Ainsi, Paul disait, nous aimons mieux quitter ce corps pour être avec le Seigneur. 2 Corinthiens 5,8. Ou encore, il disait, mon désir est de partir de ce monde et d'être avec Christ, ce qui me serait beaucoup meilleur. Philippiens 1,23. Ou encore, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens 1,21. La mort m'est un gain, pas une terreur. Alors, est-ce que nous pouvons dire, la mort m'est un gain ? Je ne vais pas vous dire que les chrétiens n'ont pas peur de la mort. Le fameux livre de John Bunyan, Le voyage du pèlerin, met en scène la mort du personnage principal, chrétien. Et en fait, c'est comme la traversée d'une rivière. Et donc, il a peur. Et voilà ce que dit Chrétien. Il dit, il traverse cette rivière de la mort, et il dit, « Les vagues sont au-dessus de ma tête. Toutes ces vagues me recouvrent. L'angoisse de la mort m'a complètement submergé. Je ne verrai pas le pays où coule le lait et le miel. » Il est troublé par les péchés qu'il a commis avant sa conversion et après sa conversion, et il perd pied. Mais finalement, il se rappelle l'amour de Christ. Il se rappelle ce verset de Ésaïe 43, verset 2. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Alors, frères et sœurs, gardons les yeux sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et si nous sommes saisis par la peur de la mort, rappelons-nous ces paroles de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. « Par sa mort, Christ a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Mais cela, bien sûr, n'est donné qu'à ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, comme Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Alors avez-vous cette foi en Jésus-Christ ? La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons continuer à écouter la parole de Dieu dans les versets qui suivent dans notre chapitre. Et regardons les versets 30 à 32. Qui nous parle spécifiquement de Jésus-Christ. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Mes yeux ont vu ton salut. Siméon voit Jésus-Christ. Il aurait été tout à fait correct qu'il l'appelle le Sauveur. Il aurait pu dire « Mes yeux ont vu le Sauveur ». Mais non, il va plus loin. Il dit, il l'appelle ton salut. Le salut, c'est une personne. C'est étonnant quand même. Le salut, on pensait que c'était un acte ou un événement. Mais en fait, c'est une personne qui est Jésus-Christ. Et frères et sœurs, je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous pensez à votre salut. Est-ce que vous pensez à une profession de foi que vous avez faite ou à une décision que vous avez prise à un moment dans le passé. Mais il est indispensable que notre salut, que votre salut soit toujours associé à la personne même de Jésus-Christ tout au long de votre vie, aussi bien lors de votre conversion que pendant votre vie chrétienne. Celui qui a Christ a la vie. Notre salut, il est indissociable de la personne de Jésus-Christ. Être sauvé, c'est être uni à Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, comme l'explique le sixième chapitre de l'Épître aux Romains. Ensuite, donc, Siméon, il évoque deux passages du prophète Ésaïe. On a commencé un peu à les regarder ce matin et on va les regarder à nouveau. Donc, ces passages, ils se trouvent parmi ce qu'on appelle les cantiques du serviteur souffrant. Donc, ces cantiques, ils sont dans quatre chapitres. On les trouve dans Ésaïe 42, 49, 50 et 53. Et les passages qu'on veut regarder donc aujourd'hui se trouvent en 42 et 49. Donc, on va d'abord lire dans le chapitre 42, verset 6. 42, verset 6. Ésaïe 42, verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Donc ça, c'est Ésaïe 42, verset 6. Et ensuite, on va regarder Ésaïe 49, les versets 5 à les versets 5 et 6. Donc 49, Ésaïe 49, verset 5. « Maintenant, L'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a deux thèmes qui ressortent particulièrement de ces passages. Le thème du passage des ténèbres à la lumière et le thème des nations. Donc au sens des nations autres que la nation d'Israël, c'est-à-dire ce qu'on appelle les païens ou les gentils. Donc regardons tout d'abord le passage des ténèbres à la lumière. En fait, c'est un concept, c'est une idée qu'on retrouve sans arrêt dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On l'a abondamment, notamment dans l'évangile de Jean et dans sa première épître. Donc chez Jean, Christ est la lumière qui est venue dans le monde, on l'a lu ce matin, mais les hommes préfèrent les ténèbres du péché à Christ. On l'a aussi par exemple chez Paul, on va regarder dans Colossiens 1, le pasteur Albert l'a évoqué tout à l'heure, Colossiens 1, versets 12 et 14, regardons ensemble. Colossiens 1, versets 12 et 14. Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et puis on va lire à nouveau ce magnifique texte d'Ésaïe, chapitre 8 et 9, et donc qui est cité par Zacharie, en particulier dans son cantique, qui est également cité par Matthieu au chapitre 4, si je ne me trompe. Donc on va lire ça, c'est absolument splendide. Donc Ésaïe chapitre 8, verset 23. La poésie de ce texte et l'évocation est simplement extraordinaire. Mais les ténèbres, 8.23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Vous voyez, on a d'un côté les ténèbres, le monde du péché et de la mort. Et tous les hommes s'y trouvent. C'est le monde de l'angoisse, nous dit Ésaïe, cette angoisse de la mort dont nous avons parlé, comme dans une nuit sans fin. Puis tout à coup, une grande lumière resplendit. Et cette lumière, c'est le Christ. Et sur le plan géographique, cette lumière a effectivement brillé, comme l'a dit Ésaïe, dans le pays de Zabulon et de Nephtali, c'est-à-dire dans la Galilée, où Jésus a commencé son ministère terrestre. Et quel a été l'effet de cette lumière? Quel a été l'effet de cette lumière qui a brillé? Eh bien, il y a eu deux réactions. Il y a ceux dont parle l'apôtre Jean, dans le troisième chapitre de son évangile, qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Il y a ceux qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré le péché à Christ. Et puis il y a ceux dont parle Paul qui ont été transportés du royaume des ténèbres au royaume de son fils bien-aimé, le royaume de la lumière. Ils ont été littéralement délivrés de la puissance des ténèbres. Et comme dit Paul, ils sont au bénéfice de la rédemption et de la rémission des péchés qui a été acquise par Christ. Et cette translation des ténèbres à la lumière, encore une fois, comme dit Paul, c'est l'œuvre de Dieu à qui nous devons rendre grâce. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Charles Wesley, qui était le frère de John Wesley. Donc John Wesley, c'est un Anglais du XVIIIe siècle, le fondateur du méthodisme, donc un immense mouvement, surtout dans les pays anglo-saxons. Et donc son frère Charles a écrit des centaines d'hymnes absolument magnifiques. Il a raconté sa conversion dans un de ses très nombreux cantiques qu'il a écrit. Et en fait, il emprunte, en fait, clairement, dans ce que je vais vous lire, il emprunte à Ésaïe 42,7 pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et donc, je lis pour vous ce couplet qui raconte sa conversion, en fait. « Pendant longtemps, mon esprit emprisonné était solidement enchaîné par le péché et par la nuit de ma nature pécheresse. Mais ton œil, donc il parle de Christ, mais ton œil diffusa un rayon de vie. Je me réveillais, mon cachot était flamboyant de lumière. Mes chaînes tombèrent, mon cœur était libre, je me levais, je sortis et je te suivis. » Très beau témoignage de Charles Wesley ici. Et je vous demande ceci, est-ce que vous avez été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière? Est-ce que la lumière de Christ a resplendi dans votre cachot de ténèbres? C'est la plus importante question de votre vie. Est-ce que la lumière de Christ a resplendi dans votre cachot de ténèbres? Et si vous n'êtes pas sûr de votre réponse à cette question, alors cherchez jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Et cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il vous réponde. Mais si vous savez que vous avez été transporté des ténèbres à la lumière, alors faites comme le dit Paul, rendez grâce au Père. Rendez-lui grâce parce que c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas vous. Et rendez-lui grâce parce qu'il n'y a pas de chemin de retour. Parce que la Bible, elle ne parle pas de ceux qui sont transportés de la lumière aux ténèbres, mais seulement de ceux qui sont transportés des ténèbres à la lumière. Donc, deuxième thème que nous avons dans ce passage, le thème des nations, c'est-à-dire les païens, les gentils. C'est-à-dire nous, en fait. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des gens d'origine juive, je ne le pense pas. Donc, on est tous des païens. On est tous des nations. Alors, dans l'Ancien Testament, la foi en Dieu, c'est une affaire qui est essentiellement limitée au peuple juif. Mais pourtant, il y a de nombreuses allusions déjà qui sont faites au fait que la foi doit s'étendre au-delà du peuple juif. Et on en a la preuve ici. Par exemple, Ésaïe 49,5 dit ceci, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, donc, dans ce passage, l'Éternel il dit à Christ, en gros, il dit, ton ministère ne va pas se limiter à Israël, il va s'étendre à toute la terre. Alors, c'est vrai que le ministère terrestre de Jésus-Christ, il s'est limité pour l'essentiel à la nation d'Israël. Mais il a donné mission à ses apôtres de porter la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Nous le voyons dans Actes, au chapitre 1, verset 8, où Jésus dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est exactement les mêmes mots de 49,5, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et Paul cite exactement ce passage donc d'Ésaïe dans son sermon à Antioche du Pisidie, en acte 13, dit « Car le Seigneur nous l'a ainsi commandé quand il a dit « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc cette extension du salut à toutes les nations, c'est un thème qui est cher à Paul. Paul a été appelé, alors bien qu'il soit juif, il a été appelé l'apôtre des gentils, c'est-à-dire l'apôtre des nations, l'apôtre des païens. Et de son temps, la foi était vue par les juifs comme exclusivement pour les juifs. Mais Paul, il annonce que la foi est aussi pour les païens, et c'est à cause de ça qu'il s'est attiré en fait les foudres des juifs. C'était une chose extraordinaire, c'était même tellement extraordinaire que c'était en fait ce qu'il appelle un mystère, on l'a lu ce matin, le frère l'a lu, c'est un mystère, c'est-à-dire une chose qui est révélée, qui est cachée, qui est connue de Dieu seul et qui révèle aux hommes. Et je cite pour vous donc deux passages d'Éphésiens, qui font aussi d'ailleurs l'objet d'un cantique qu'on chante, qu'on a chanté souvent ici. Donc Éphésiens 3,6, « que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc ça, c'est c'est le mystère. Le mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et puis je cite pour vous un autre passage de Éphésiens 2, 12 et 13, qui est également dans ce cantique, et je dirais qu'il est très émouvant, où Paul dit ceci, il parle aux païens, et il leur dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et le petit bébé que Siméon prend dans ses bras, il est le salut devant tous les peuples et la lumière pour éclairer les nations. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs qui est appelé à régner sur toute la terre et sur toutes les nations. Et je voudrais citer pour vous un très beau psaume, qui est le psaume 72. C'est un psaume qui, en apparence, parle de Salomon, mais qui parle surtout de Christ. Donc le psaume 72, qui nous parle de l'étendue aussi bien géographique que temporelle du règne de Christ. Et donc je cite pour vous quelques passages. « On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. » Donc on parle de Christ ici. « On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, toutes les nations le serviront. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que lui le soleil, et toutes les nations le diront heureux. » Donc ça, c'est une louange à Christ qui est faite dans le Saint-Testament, le psaume 72, et qui nous parle en fait donc, du fait qu'il sera la lumière de toutes les nations. Alors, on constate aujourd'hui que l'Église semble reculer dans nos pays, dans les vieux pays chrétiens, en Europe, aux États-Unis, mais nous ne nous y trompons pas, l'Église, elle prospère dans le reste du monde. Elle prospère en Amérique du Sud, en Afrique, dans les terres de persécution des pays musulmans, en Chine. En fait, la lumière s'étend à toutes les nations. Et le salut, il est porté jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce que nous voulons faire, c'est regarder à la fin des temps et au retour de Christ, et à la prophétie de ce psaume, lorsque la prophétie de ce psaume sera réalisée. Je lis pour vous Apocalypse 22, versets 23 et 24. Donc, il parle de la Jérusalem céleste et dit qu'elle n'aura besoin ni de soleil, ni de lumière pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera et l'agneau sera son flambeau. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Donc, lumière des nations. Mais avant que cette prophétie soit réalisée, il faut que donc Jésus accomplisse son ministère terrestre en Israël, et c'est ce dont parle Siméon dans les derniers versets de notre passage, donc les versets 33 à 35. Donc là, Siméon parle en fait du ministère terrestre de Christ. Et je lis pour vous donc versets 33 à 35. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Donc le thème général de ces versets, de ces derniers versets du passage, c'est l'opposition du monde au ministère de salut de Christ. Siméon, il prévient clairement Joseph et Marie qu'être les parents terrestres de Christ sera l'occasion de beaucoup de douleurs, au point même, dit-il, que ce sera comme une épée transperçant l'âme de Marie, et il fait certainement allusion à la crucifixion de Christ. Et au passage, on voit que par cette prophétie, l'Esprit Saint en fait montre sa bonté et prépare déjà Marie à la souffrance qui va être la sienne dans sa vie de mère. Christ, donc nous dit le passage, est destiné à mener la chute et la contradiction. Alors le ministère de Thérèse de Christ, c'est un ministère de salut. Christ n'est pas venu pour amener la chute, il est venu pour amener le salut. Mais ce n'est qu'indirectement que son ministère provoque la chute. Et on l'a vu à nouveau dans le texte de Jean. Or voici la cause de la condamnation, donc de la condamnation des hommes, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc Jésus provoque la chute en ce que les hommes se détournent volontairement de lui parce qu'ils préfèrent une vie de péché. Donc ce sont les hommes qui se détournent de Christ et non pas Christ qui se détourne des hommes. Ce sont les hommes qui chutent d'eux-mêmes. Lors de sa première venue, Jésus est venu, dit-il, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean, toujours dans Jean 3, 17. Que Jésus soit une source de contradiction et d'opposition, donc autre thème dans ce passage, qu'il est une source de contradiction et d'opposition, c'est partout dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus dit, Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ou encore, Matthieu 21, 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Verset 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Donc Jésus est une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre sur laquelle on trébuche, un rocher de scandale pour ceux qui le rejettent, qui étaient les scribes et les pharisiens, mais aussi tous ceux qui le rejettent de nos jours. Il est pour eux une pierre d'achoppement. Et c'est en cela, comme dit le passage, qu'il dévoile les pensées de beaucoup de cœurs. En fait, la présence de Jésus ou de la parole de Dieu, elle ne laisse pas indifférent. La présence de Jésus, de la parole de Dieu, ne laisse pas indifférent. Il y a quand elle est vraiment prêchée. Il y a un ancien archevêque de Canterbury qui a dit ceci, donc un anglican du XIXe siècle, il a dit « Partout où Paul, il parle de l'apôtre Paul, partout où Paul allait, il provoquait soit un réveil, soit une émeute. Partout où Paul allait, il provoquait soit un réveil, soit une émeute. Le véritable christianisme ne laisse pas indifférent. Toujours Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2, il nous dit qu'il est une odeur de mort pour ceux qui périssent, mais il est une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Donc on a cette contradiction, le fait, la parole de Dieu, là, elle est présente quand elle est vraiment proclamée, il y a une contradiction qui se crée. Pour les uns, c'est une bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés, mais pour ceux qui périssent, c'est une odeur de mort. Et donc Jésus, il est d'abord et avant tout une pierre angulaire pour ceux qui mettent leur foi en lui. Et c'est en cela qu'il est venu amener le relèvement. Donc le texte nous parle du relèvement de plusieurs en Israël. Le relèvement de plusieurs. Et en fait, le mot traduit relèvement, c'est le mot résurrection. Et donc c'est le but principal du ministère de Christ. Ce n'est pas la chute des hommes, c'est leur résurrection. Mais ce sont les hommes qui le rejettent, ce sont les hommes qui trébuchent sur la pierre d'achoppement. Mais cette pierre d'achoppement, elle est d'abord et avant tout une pierre angulaire. Et frères et sœurs, on doit être conscient donc, que le christianisme n'a pas pour objet d'être une partie de plaisir sur la terre. La situation normale du christianisme, c'est la persécution. C'est ce qui se passe en Algérie, au Nigeria, au Pakistan, en Chine, en Corée du Nord, en Birmanie et dans plein d'autres pays. La situation normale du christianisme, c'est qu'on s'y oppose. C'est le rejet et c'est la persécution. Et ça va être de plus en plus le cas dans nos pays, dans nos vieux pays chrétiens, où la société est de plus en plus hostile au christianisme. Et elle va faire des ennuis aux chrétiens à cause notamment, par exemple, de leur rejet de l'avortement ou de la culture dite LGBT. La citation complète de cet archevêque de Canterbury, qui ne manquait pas d'humour, comme les Anglais en général, c'est la suivante. « Partout où Paul allait, il provoquait un réveil ou une émeute. Et moi, on me sert une tasse de thé. » Et en fait, il parle, c'est un homme, un Anglais du XIXe siècle, donc La religion chrétienne était la religion établie en Angleterre et elle n'avait aucun problème pour être chrétien en Angleterre il y a 200 ans. Mais aujourd'hui, si vous êtes chrétien, on ne risque pas de vous servir une tasse de thé. Ou alors posez-vous la question, si on vous sert une tasse de thé, de savoir si vous proclamez vraiment l'Évangile. Et donc je dis, si vous êtes chrétien, ne vous attendez pas à ce qu'on serve une tasse de thé, mais plutôt, soyez toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. J'en arrive à ma conclusion. Et quelques mots de conclusion, surtout sur Noël, puisque ce texte nous parle avant tout de Noël. Noël est devenu une fête grotesque. Le monde a réussi à vider presque complètement, Noël de toute mention de Christ. On a l'impression que c'est le résultat d'un travail méthodique et exhaustif. Noël est énormément fêté, c'est une fête importante, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Christ a quasiment entièrement disparu de Noël. On a maintenant le Père Noël, personnage absolument ridicule. Et je dis pour les enfants qui sont ici qu'il n'existe pas. Et si les parents ont des problèmes, ils viennent me voir après. On a les reines, on a les elfes, on a les sapins. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en France, on a le Secret Santa, on se fait des cadeaux, là. En Angleterre, on a la journée des pulls de Noël, où on doit venir au travail avec un pull qui représente des sapins, des reines. Ce jour-là, j'ai travaillé de chez moi. Évidemment, il y a les cadeaux de Noël. Vous savez, on a dit que l'Église catholique au Moyen-Âge, elle avait christianisé les fêtes païennes. C'est vrai, elle avait, comme la Toussaint par exemple, elle avait christianisé les fêtes païennes. Eh bien, notre monde, il est en train de paganiser les fêtes chrétiennes. Et il le fait avec beaucoup d'efficacité et en très peu de temps. Mais nous connaissons le vrai sens de Noël, frères et sœurs. En anglais, c'est le mot Christmas, qui veut dire la fête de Christ. En français, c'est Noël, qui en fait veut dire naissance. C'est du vieux français, ça veut dire naissance. Navidad en espagnol, c'est aussi le concept de la naissance de Christ. Noël, c'est le souvenir du moment où une grande lumière a resplendi sur le peuple qui habitait dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Cette grande lumière, c'est la lumière des nations, et c'est Jésus-Christ. Et nous voulons le louer ce matin pour plusieurs choses, parce qu'on est ici pour louer le Seigneur. On veut le louer tout d'abord qu'il ait fait jaillir cette lumière dans le cachot où nous nous trouvions. Nous étions tous dans un cachot. Et il a fait jaillir cette lumière. Et comme dit Wesley, nos chaînes sont tombées, notre cœur a été libéré, nous nous sommes levés, nous sommes sortis du cachot et nous l'avons suivi. Et nous voulons le suivre encore. Deuxièmement, on veut aussi le louer qu'il n'ait pas limité cette lumière au peuple juif, mais que dans sa grâce, il l'ait étendue à toutes les nations. Il aurait pu limiter la lumière au peuple juif. Il n'avait pas de compte à rendre à personne, mais il a, dans sa grâce, décidé qu'il allait étendre la lumière à toutes les nations pour qu'il soit glorifié par toutes les nations, c'est-à-dire par nous tous. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Jésus-Christ, sachez que cette lumière éclaire tous les hommes. Elle n'est pas réservée à un petit groupe d'hommes. Il est dit dans la parole qu'elle éclaire tous les hommes. Dans l'évangile de Jean, je lis « Cette lumière est la véritable lumière » qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça a été lu ce matin par le frère. Le même évangile, il dit que les hommes, ça on l'a déjà vu, il dit que les hommes se détournent de cette lumière, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jean 3,20. Mais ce même évangile dit aussi que à tous ceux qui reçoivent cette lumière, il leur est donné le droit d'être fait enfant de Dieu. À ceux qui reçoivent la lumière, il est donné le droit d'être fait enfant de Dieu. Alors, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes face à un choix. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes face à un choix très simple. Soit vous vous détournez de lui parce que vos œuvres sont mauvaises. Ou bien, vous recevez cette lumière et vous êtes transporté du royaume des ténèbres au royaume de Christ, en qui vous aurez la rédemption et la rémission des péchés. Amen.